Ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Donc, il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif vers l'humanité et la nature au centre.
Tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Radio Grand Ciel 106.8 dans l'émission Le Domaine du Possible. J'espère que vous avez passé un agréable été. À présent, nous allons de nouveau nous retrouver tous les mois pour aborder avec vous des sujets ayant trait à l'écologie, à la protection de l'environnement et des valeurs humaines. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un camp climat qui s'est déroulé pendant 4 jours du 24 au 27 août au Moulin de la Perruche, à Saint-Martin-de-Nigelle, près de Maintenon. Il s'agissait pour Tatiana Tirlois et ses amis de l'association Assos Régal de mettre en commun des savoir-faire visant à agir contre le réchauffement climatique. Ainsi se sont déroulées des formations, des chantiers participatifs, des échanges de pratiques, des moments aussi festifs autour d'alternatives pour encourager les citoyens à lutter contre le réchauffement climatique. Nous allons entendre, pour commencer cette balade au Moulin de la Perruche, la voix d'un visiteur ravi, puis de Tatiana, et celle d'Antonin et Axel de la Sauce Régale qui nous expliquent leurs intentions.
Là, il y a quelque chose qui se passe dans cet endroit et qu'on ne voit pas beaucoup. Et c'est l'idée de partage.
La bouteille, elle est ouverte sur la table, mais voilà, t'arrives, tu prends un verre, bah oui, c'est pas, on n'est pas un verre près. Et puis oui, c'est l'idée de se retrouver, de pas se connaître, parce que moi, je connaissais personne. Et en fait, voilà, je repars d'un bon week-end, j'ai rencontré plein de gens, j'ai appris plein de choses, c'est en plus varié. Sur un même thème, il y a un fil conducteur, mais sur des tas de thèmes différents. Et passer un super week-end.
Qu'est-ce qui t'a fait venir en fait ?
Par curiosité. C'est ma fille qui m'a dit qu'il y avait ça. Donc elle m'a dit, ouais, viens voir, t'as voir. Donc elle m'avait vaguement expliqué ce qui allait se passer, mais sans, dans les grandes lignes. Voilà. J'ai découvert des gens et je savais pas. Voilà, parce que moi je suis originaire du coin. Et cette mentalité-là dans le coin, c'est ce qu'on a dit souvent dans l'après-midi, très peu, très très peu. Et moi, pour pouvoir m'ouvrir, il a fallu que je m'expatrie pour pouvoir penser
différemment.
Parce que au niveau culture, c'est pas ça. Chartres, c'est bien. Enfin, la région chartraine a bien évolué. J'allais dire ces 15 dernières années. Parce que moi, quand j'ai étant ado sur Chartres, t'avais accès à rien. Voilà, ça fait à peu près 10 ans que je suis revenu. On est passé vraiment limite d'un extrême à l'autre. Là maintenant, on n'est pas encore tout à fait la culture pour tous, mais on s'en approche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Il y a une ouverture petit à petit, mais on est quand même dans un territoire. Je ne sais pas si tu le sens aussi, Tatiana, c'est un territoire où il faut conquérir.
Ah, c'est tout à fait.
C'est la conquête.
Ouais,
tout à fait. Comment tu perçois, toi ?
C'est marrant vis-à-vis du voisinage, c'est des choses que je peux ressentir aussi. Conquête de territoire, moi en tant que nouvelle venue depuis un an, il faut se faire connaître de la bonne façon, se montrer ouvert, souple d'esprit. Et avant d'étaler mes idées, justement, je pense qu'il faut créer du lien, de la simplicité, quelque chose d'amical. Et là, en fait, on va plus loin dans les démarches. Et la conquête de territoire se ressent moins si on fait un premier pas, effectivement, de simplicité, d'amitié, de bon voisinage. Ensuite viennent des actions plus concrètes.
nous sommes au moulin de la Perruche. Un tas d'ateliers ont été préparés. Donc là, un atelier pour faire des produits maison. Et c'est Tatiana qui explique comment faire.
Alors, on a mis les cristaux de soude, on a mis le savon en paillettes, on a mis le savon noir liquide, on a l'eau et on peut faire chauffer. Donc on peut directement mettre la casserole sur le réchauffe. Ah ouais, ça y est, il chauffe là. On ne le voit pas parce que c'est en plein jour. Et donc on garde notre huile essentielle pour la fin. Donc quand on aura pris notre mélange, il aura pris... Alors vous allez voir, en fait, la lessive comme ça, elle prend souvent une couleur nacrée. Et en fait, vous faites chauffer jusqu'à temps que vous estimez que le mélange devient assez liquide.
C'est la première fois
que on va rechercher ça pour laver son linge.
De la lessive comme ça? Non, je connais aussi. Je connais aussi la lessive au savon de Marseille.
Ça marche?
Ah oui, ça fonctionne très bien. Mieux que les industriels même, je trouve.
Oui, exactement. C'est vrai, ça devient beaucoup plus dense. Et en refroidissant même, ça redevient encore plus dense. Vous voulez que je vous montre le résultat final? Hop.
Pas l'objectif de ce camp climat, c'était plutôt destiné à des personnes qui connaissaient un peu, ou est-ce que tu voulais aussi ouvrir à plus large, ouvrir un petit peu à d'autres méthodes, d'autres pratiques?
C'est exactement la question qu'on s'est posée au point de départ, puisqu'on est parti avec un groupe de 50inois en Yvelines et d'Eure-et-Loir, et en fait le groupe de Saint-Quentin était assez formé, puisque au nom de la sauce régale, avec une épicerie participative qu'ils sont en train de monter, une AMAP au sein d'un quartier mix de population entre HLM et résidence familiale. Et nous, de notre côté, on a répondu à présent à l'appel pour justement monter un camp climat, mais on était plus éparpillés. Pas forcément. On était donc déjà étalés en Eure-et-Loir. On était aussi issus de différents mondes, et plutôt partant pour l'idée, mais pas formé en groupe. Et en fait, l'idée de ce camp climat, je pense qu'il pourrait nous susciter l'envie de former aussi un groupe. Du coup, on s'est proposé un peu de monter un projet en termes de convergence, où on a différentes associations et collectifs qui sont venus témoigner de leur lutte ou de leurs activités. Donc on a Stop Tafta, Stop Linky, en rapport avec la Nationale 154. On a également l'association de protection de la vallée de la Drouette, la PVD, qui, elle, fait beaucoup le lien entre Saint-Quentin et l'Eure-et-Loir du fait des problématiques qu'elle a amorcées au sujet des inondations du 31 mai de 2016 et qui découlent du territoire de l'Eure-et-Loir, l'impact vécu ici dramatiquement entre Rambouillet et les habitants de la Drouette en Eure-et-Loir. Donc du coup, il y a du lien aussi de vouloir faire aussi cette association interdépartementale. L'objectif effectivement pour l'Eure-et-Loir, c'est certainement de monter localement des actions concrètes qui, j'espère, seront pérennes. Et on a parlé notamment de cafés associatifs, d'épiceries participatives. Ça a été l'objet de formations proposées. On est dans des thèmes qui touchent l'écologie, c'est un camp climat, mais au-delà du politique, c'est d'abord du faire ensemble et faisons local. Et voilà, on attend la suite vis-à-vis du bilan qu'on pourra donner du camp climat. On a hâte de savoir un peu quel retour on aura et ce qui se passera localement.
On avait prévu de faire le shampoing aussi, on n'a pas trouvé un produit de base dont on aurait eu besoin, donc je ne sais pas ce qu'elle a prévu de faire, mais il y a plusieurs produits qui vont être utilisés sur le camp qui respectent l'environnement, parce que là les douches sont directement sur le terrain, on a une rivière à côté, donc il faut utiliser des produits qui soient respectueux de l'environnement, et donc là ils sont faits sur place, donc c'est à la fois un atelier pratique où on voit de la théorie, de la pratique, et finalement on va se servir directement.
Alors, vous prenez de l'argile en poudre, en granulé, On remarque un peu plus, on va en faire pour les campeurs.
Ah bah oui.
Qu'on soit sûr aussi qu'il y ait une bonne hygiène. Allez, on y va.
Cercle de discussion potager coopératif. Comment créer son potager coopératif? Différentes formes, différents modèles. Ça peut être bien ça.
Ça peut être bien, ouais.
Il y a le modèle de racines carrées, de l'épicastel fortin, des jardins partagés plus classiques. Enfin,
l'agriculture. La Sauce Régale, c'est une association qui milite ou qui œuvre sur le secteur de Guyancourt?
Oui, alors c'est une association guyancourtoise qui agit pour répondre à l'urgence climatique et sociale et qui, dont le rayonnement d'action est principalement Guyancourt et ses alentours, mais qui se place aussi à un enjeu global qui est celui du dérèglement climatique.
Tout à l'heure, on parlait rapidement et j'entendais parler des délais là, par rapport au climat. Où on en est?
On sait que témoigne Jean Jouzel, qui était l'ancien vice-président du GIEC, qui a intervenu très récemment dans les médias, que le pic d'augmentation des rejets de gaz à effet de serre doit arriver dans les 3 prochaines années maximum, sinon on n'arrivera pas à réguler et à réussir à calmer le problème.
Qu'est-ce que vous préconisez, vous, comme action?
Alors, nous, on préconise des actions à tous les niveaux de la vie quotidienne. On s'intéresse particulièrement à la vie de notre quartier et de notre ville. Alors les actions qu'on met en place, c'est notamment de la coopération économique. Par exemple, l'année dernière, on a lancé une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui permet à un paysan de vivre pendant un an sans irrégularité en termes de marché, parce que c'est un travail difficile. Et voilà, nous on soutient ça, donc on organise la distribution des légumes. Mais aussi, en septembre, le 22 septembre prochain, nous ouvrons une épicerie participative à Guyancourt, qui est un groupement d'achat qui va permettre de distribuer dans notre quartier des produits secs à un prix accessible pour tous et toutes, et qui respecte davantage le climat que ce qu'on peut trouver dans les supermarchés classiques, mais qui aussi se préoccupe des conditions sociales des personnes qui produisent ces aliments, parce que nous pensons que agir pour le climat, c'est aussi s'intéresser au travail et à la redistribution des richesses.
Favoriser déjà peut-être les circuits courts, éviter les transports.
Tout à fait. Notre objectif numéro un, c'est de limiter les émissions, le réchauffement climatique. Et notamment, notre AMAP, elle est un peu particulière. On dit que c'est une AMAP de quartier. Parce que dans le contrat, il y a écrit qu'on ne peut pas venir en voiture. Voilà, on ne veut pas d'un supermarché avec un grand parking, on veut un espace de convivialité où on a le temps de discuter avec notre maraîcher qui nous explique comment ça se passe sur le champ, qu'est-ce qu'il vit, et pour qu'on se rende compte du travail qu'il fait pour nous, et que voilà, on crée du lien.
Créer du lien aussi par le mode participatif, quel est l'intérêt finalement d'une économie participative?
L'intérêt, c'est justement de limiter les prix, parce que les revenus sont de plus en plus faibles. À Guyancourt, notre association, elle est surtout implantée dans un quartier plutôt populaire, 60% de logements sociaux. Et nous, ce qu'on cherche, notamment avec l'épicerie participative, mais aussi avec la MAP, c'est à réduire le coût de ces aliments qui sont respectueux du climat et qui devraient être consommés par tout le monde pour justement limiter le réchauffement climatique. Si la majorité de la population n'y a pas accès, c'est un grand problème. Et le camp climat, c'est aussi une façon de découvrir ces modèles qui existent, que tout le monde peut déployer à son échelle, mais également c'est une occasion de se former au plaidoyer, parce que notre association, elle ne fait pas que créer des petites coopératives, elle fait aussi du plaidoyer, c'est-à-dire elle va agir sur des décideurs pour enclencher des réformes. Et notamment, notre campagne actuelle, c'est 150 familles guyancourtoises en route vers l'autonomie alimentaire. Et notre objectif, c'est de convertir un champ qui est proche de chez nous, qui fait 25 hectares, de façon à ce qu'il nourrisse la population de Guyancourt, ou une partie en tout cas.
Et le camp climat en lui-même, c'est quoi? Il s'agit de quoi?
Alors, le camp climat, ça a été inventé en Angleterre. Alors, plus récemment en France, il y a Alternatiba, Les Amis de la Terre et ANV COP21 qui ont créé un camp climat l'année dernière. qui a rassemblé pas mal de monde, plus que d'habitude. Les Amis de la Terre, ils avaient aussi pour habitude d'en organiser un. Et voilà, on s'est dit que si on veut changer quelque chose, il faut que tout le monde puisse agir et se former, et que donc les camps climat se multiplient.
Donc là, on est en cuisine. Il y a des crêpes en train de se préparer.
Ah, mais
des compotes. Génial.
Ce soir, c'est galette et crêpes.
Waouh.
C'est Céry qui pilote la cuisine. Donc,
Là-bas. Je vais lui demander alors. Ouais. Bonjour Céry.
Bonjour.
C'est toi la chef cuisine en fait?
Ah non, il n'y a pas de chef cuisine. Tout le monde.
Il paraît que c'est toi qui as conçu les menus.
Oui, parce que voilà, je suis du métier, donc du coup j'ai un peu l'habitude de la restauration, y compris en collectivité. Mais sinon, tout le monde est mis à contribution pour la cuisine, pour venir organiser ou même changer une recette si quelqu'un se sent motivé avec toute la récupération de légumes et de fruits qu'on a à trouver une autre recette que l'idée de faire, pourquoi pas.
Les légumes viennent du jardin, j'imagine?
Alors non, c'est uniquement de la récup du glanage qu'on a fait dans des magasins bio. Il y a quand même quelques légumes qui viennent du jardin de Tatiana, qui a pu bien nous fournir quelques légumes. Et quelques restes de légumes aussi de la MAP, de l'association, de la sauce régale aussi. Voilà. Et avec tout ça, on a eu tout ce qu'il fallait pour les 4 jours.
Comment tu as conçu tes menus du coup? C'est plutôt, est-ce que c'est plutôt végétarien?
Oui, c'est végétarien. Il n'y a pas de viande, surtout parce que d'un point de vue sanitaire, on n'a pas de frigo, donc on ne peut pas conserver. Il y a juste des briques de lait pour les crêpes ce soir. Mais sinon, oui, c'est végétarien, voire pratiquement végétalien.
Merci Céry, je ne veux pas te déranger davantage. Maintenant que nous connaissons le menu, écoutons Antonin et Axel de la Sauce Régale nous conter les stratégies de l'action non violente et promenons-nous au bord de la Drouette pour comprendre les avantages de la permaculture avec Aurélien.
La stratégie d'action non violente, c'est une méthode pour faire avancer les politiques publiques, mais c'est aussi une méthode pour se faire avancer soi-même. Et ce qu'on dit quand on commence à réfléchir à un plan, qu'on est sur ce type de méthode, c'est qu'il faut chercher des petites victoires. Et les premières victoires, c'est les victoires du quotidien. C'est effectivement être capable de s'approprier et de fabriquer sa propre lessive, c'est résister au modèle industriel et à la diffusion de masse de produits ultra polluants qui génèrent un réchauffement climatique en partie. Et bon, une fois qu'on a passé cette petite victoire, ça peut donner aussi confiance en soi. On se dit, ouais, mais c'est la stratégie d'action non violente, elle est aussi collective. Et le côté collectif, il est ultra fort parce qu'en fait, on va mettre en commun tout ce qu'on sait, on va réfléchir à comment faire avancer les choses et, de façon positive en ciblant un décideur qui est un levier pour faire bouger quelque chose qu'on veut faire bouger. Et on va partir du principe qu'il est neutre. On va partir du principe qu'il a des alliés, qu'il a des opposants. Et en fait, pour réussir, il faut mettre tout le monde de notre côté de façon à ce que le décideur se dise « Bah oui, en fait, j'ai tout intérêt à prendre cette décision-là, puisque tout le monde la veut. »
C'est construire un nouveau modèle de société. En fait, ce n'est pas lutter contre, c'est aller avec et changer la façon de faire.
C'est un peu les deux. Il est très simple et commun de critiquer ou de dire il y a un problème sur ce point. Et il faut relever quand il y a des problèmes sur un point. Mais on constate que c'est beaucoup plus pertinent et efficace de proposer une alternative. Et c'est ce qu'on essaye de faire. En ayant les deux aspects, c'est là qu'on a vraiment qu'on peut gagner le débat.
Oui, et juste par rapport à ça, je pense que la critique est constructive, l'opposition aussi. Et notamment quand ANV COP 21 va bloquer un sommet pétrolier, on ne peut pas ne pas s'opposer à des choses qui sont inhumaines et qui nous mènent dans le mur, et qu'on le sait concrètement. Il faut s'interposer, il faut s'opposer. Et il faut aussi avoir un programme constructif qui permette d'être positif et d'amener du monde avec nous. Les deux vont ensemble, c'est une paire de jambes en fait.
Que je peux te demander de te présenter peut-être ?
Ouais, moi je m'appelle Aurélien, je commence tout juste là en maraîchage. En fait, je viens de terminer un BPREA le 30 juin et puis un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole en maraîchage bio. Et puis du coup, ouais, donc j'ai fini ce BPREA et là je m'installe en fait chez mes beaux-parents, chez les parents de Tatiana du coup, qui ont un terrain d'à peu près un hectare, donc qui est bordé, comme on le disait tout à l'heure, par le canal et traversé par la rivière, la Drouette. Donc c'est un terrain en zone inondable, donc ça peut poser des problèmes.
On passe le vannage, on passe au-dessus de la rivière, pour ensuite rejoindre le terrain. On arrive sur la longue île, on l'appelle comme ça parce qu'à droite on a le canal et à gauche on a la Drouette, la rivière. Et puis aussi parce qu'elle est en longueur.
Donc ce matin, c'était une initiation à la permaculture ?
C'est ça. Donc on a mêlé en fait une partie théorique, où Tatiana a pu nous retranscrire tout ce qu'elle avait pu voir à son cours de certifié de permaculture, qu'elle a fait l'an dernier. Et par la suite, du coup, on a pas mal discuté sur le terrain pour expliquer quelles étaient nos pratiques au niveau de notre maraîchage naissant. Mm-hmm. Donc par exemple, des pommes de terre dans la paille.
D'accord.
Le non-travail du sol. Et ensuite, on s'est dirigé vers la fin du terrain pour installer ce qu'on espère bientôt être une serre. C'est un prototype qu'on monte en bambou en fait, avec donc des bambous et des arceaux de tunnel nantais. Là sur la droite, on voit des couches chaudes. Donc en fait, c'est un coffrage en bottes de paille qu'on a découpé à la tronçonneuse. Et le principe en fait des couches chaudes, c'est d'amasser des matières. Tels du fumier, de la paille, du foin, qui vont du coup générer de la chaleur et nous permettre, une fois qu'on met des tunnels nantais par-dessus, de garder cette chaleur et de maintenir nos semis en croissance pendant l'hiver.
Et qu'est-ce que tu appelles des tunnels nantais du coup ?
C'est comme le principe d'une serre, sauf que ça fait 1 mètre de hauteur. Quoi.
C'est des arceaux ?
C'est des arceaux sur lesquels on coule une grande bâche. Donc c'était pour pouvoir faire nos semis, vu qu'on n'avait pas de serre dans le terrain, c'était quand même assez pratique. Donc c'est une technique qu'on a retrouvée sur une vidéo 1942 de Canadiens. Ils avaient des bonnes techniques, avant ils savaient bosser. Et puis on a retrouvé ça aussi dans un bouquin français qui parle du maraîchage de 1870 à peu près, de Gressan. Et on retrouve tout plein de techniques comme ça qui au final nous permettent d'économiser... pas pour cette technique du temps, mais d'économiser en termes de consommation et puis de surtout de ce qu'on pollue. Quoi. Là, on utilise, comme tout le monde, hein, des cagettes de semis. Donc c'est des barquettes dans lesquelles on met des mottes. Donc en fait, on vient au presse-mottes manuel parce qu'une motteuse, ça coûte cher. Et puis consommer du pétrole, c'est pas trop notre truc. Enfin, on évite. Donc du coup, on presse des mottes, on remplit les cagettes et après on vient semer dans chaque motte une graine. Quoi. Une fois que le plant est prêt et que les couches chaudes ont fini de chauffer, on récupère le plant, on va le planter dans le terrain. Et donc c'est ce qu'on peut aller voir. On a bâché le terrain. Donc alors c'est sûr, c'est une bâche d'ensilage, donc c'est du plastique. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'avec la paille, on n'a pas de résultat suffisant, on va dire. Mais on combine les deux et l'objectif, c'est de continuer qu'avec de la paille. Donc, avec cette technique, ça nous permet en fait de supprimer... de faire mourir la végétation de la prairie qui était présente avant.
Donc là, en fait, on marche sur de la paille. La terre a été désherbée en quelque sorte
par l'action de la bâche noire.
On a laissé mourir la végétation.
C'est ça.
Et après, on a paillé sur quoi ? 10 cm quasiment ?
Voilà, nous, ce qu'on fait aussi, c'est de pailler directement et de mettre la bâche par-dessus. Et quand on revient, en fait, la paille a été partiellement mangée par notamment les lombriciens, les vers de terre, pardon. Et donc du coup, ça permet de nourrir la vie du sol, et l'essence même, enfin, de ce à quoi on croit, c'est quand même de se dire qu'il y a rien, enfin, il y a aucun domaine dans la vie où l'homme fait mieux que la nature. Donc pourquoi ne pas laisser les animaux du sol travailler le sol à notre place? Et puis quelque part, quand on arrive pour travailler le sol, bah, on détruit la vie, on détruit l'habitat et le frigo de toutes ces bestioles. Donc forcément, après, on crée des équilibres, et puis qu'on essaie de compenser avec de la chimie. Donc,
Mais en tout cas, on te sent passionné aussi, hein, je te le dis.
Ah ouais, non, mais le maraîchage, moi, c'est... Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai fait pas mal de boulot avant, et j'ai été suffisamment stupide pour mettre 10 ans à comprendre qu'il fallait pas que je travaille enfermé, et qu'il fallait pas que je travaille pour des boulots qui me correspondaient pas du tout, quoi. Donc être dehors, moi, ça me plaît. Travailler beaucoup, ça me plaît. Et puis là, c'est du concret. Je suis un peu basique. Il me faut du concret. Donc là, je plante des trucs. Je vois que ça pousse. Les gens sont contents.
C'est moi, ça me va bien. Quoi.
Exactement, ouais. Non, puis c'est vrai qu'après, c'est aussi facile d'être comme ça. Parce que c'est vrai que Tatiana, c'est un moteur, quoi. Ouais. Elle est... elle s'arrête jamais, quoi. C'est...
Bah, ça va être elle qui va donner le mot de la fin, en fait.
Ah,
elle
parfait.
Merci beaucoup, Aurélien.
Bah, pas de soucis. Merci à toi.
Du ressenti juste là par rapport à ces déjà 2 jours, comment est-ce que c'est vraiment ce que tu attendais, ou est-ce que tu as des déceptions, au contraire de l'enthousiasme? Si c'est pas trop indiscret, hein.
Oui, non, pas de souci. Ma seule déception, c'est de venir passer une heure et demie là sur l'électricité parce qu'on a eu un problème. Non, je suis ravie depuis la veille de l'organisation, en fait, de l'événement, puisque des personnes ont même répondu présent pour nous aider à l'installation. Et jeudi matin, c'était le thème de la matinée, installer un lieu de façon autogérée. Et tout le monde s'est vraiment pris au jeu. Donc en fait, on a participé à l'installation d'un campement avec des toilettes sèches, un lavabo. Et même on a monté un chauffe-eau pour bénéficier d'une eau chaude directement sur le campement. Donc avec des douches, tout le petit campement a été installé vraiment par les personnes qui sont venues participer, pas du tout par les organisateurs.
Quand je t'entends, il ne faut pas oublier l'objectif.
C'est ça, et on ne voulait pas se perdre non plus, parce que quand on propose des ateliers un peu divers et variés, on peut s'y perdre sur la raison pour laquelle on se retrouve. Donc on a fait une plénière, en fait, d'introduction, où on a bien recentré pourquoi il était important de s'unir et de partager chacun nos savoirs, parce qu'aujourd'hui, le sujet est grave pour notre planète, le dérèglement climatique. Nous avons envie d'agir, et c'est ça qui nous rassemble, donc allons plus loin.
Nous arrivons à la fin de cette émission avec le bilan de ce camp climat qui mérite en effet d'être pérennisé et de permettre de créer des collectifs d'entraide et de formation à des savoir-faire plus écologiques. Merci aux organisateurs de ce camp et aux intervenants pour leur accueil et leurs échanges constructifs. Merci aussi à Simon pour son aide technique. Je vous propose de nous retrouver sur le site de Radio Grand Ciel. Si vous souhaitez partager ou réécouter les émissions, trouver davantage d'informations sur nos sujets. Nous nous retrouvons le mois prochain avec d'autres rencontres passionnantes et innovantes. À très bientôt.